Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tuliesch avec vous. Bienvenue dans cette édition spéciale du Monde Aujourd'hui, consacrée à l'investiture du 45e président des États-Unis.
January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
On se souviendra du 20 janvier comme le jour où le peuple des États-Unis a retrouvé son pouvoir. C'était les mots de Donald Trump. L'événement fait la une de l'actualité internationale. Les États-Unis ont donc un nouveau président en la personne de Donald John Trump. Nous revivrons ensemble les temps forts de cette journée historique grâce à une couverture intégrale en temps réel avec l'équipe multimédia de VOA Afrique et voafrique.com. Temps fort de l'investiture, la prestation de serment de Donald Trump comme en tant que 45e président des États-Unis à midi exactement, comme le veut la tradition.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Donald Trump a donc prêté serment sur l'esplanade ouest du Capitole, sous une bruine, devant un parterre de personnalités politiques. Nicolas Pineau, vous êtes sur place, devant le Capitole. Bonsoir. Nicolas ?
Oui, moi je vous entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez ?
On est vraiment sur la même longueur d'onde, et c'est le cas de le dire.
Je vous écoute, Anastasie.
Alors qu'est-ce qui se passe autour de vous ?
Alors qu'est-ce qui se passe? Comme vous l'avez dit, la cérémonie s'est terminée il y a 1h30 maintenant. Donc ici, on est en train évidemment de déménager tout ce qui a servi à la cérémonie. Revenons évidemment sur ce discours. Anastasie, c'est ça le plus important. L'investiture du 45e président des États-Unis, Donald Trump, qui est actuellement en train de signer des executive orders juste après cette cérémonie. Revenons sur ce discours. Un discours qui avait des accents de campagne. Il a redonné l'accent évidemment à l'économie. Il a redonné l'accent sur la sécurité. Il veut rendre à nouveau à l'Amérique sa grandeur. Il est dans un geste évidemment sympathique, déjà remercié le couple Obama pour une transition gracieuse évidemment. Hein. Le couple Obama qui a beaucoup aidé évidemment Donald Trump lors de ce passage de témoin. Et puis il est revenu évidemment sur son programme. Il a dit qu'il voulait être évidemment le président qui allait créer le plus d'emplois que Dieu ait jamais créé. Il a parlé de ses usines qui ont fermé, de ses familles qui évidemment subissent le quotidien. Et selon lui, aujourd'hui, cette investiture, ça veut dire que l'Amérique revient sur place. Et il demande évidemment à tout le monde de se mettre ensemble derrière lui. Selon lui, il n'y a plus de républicains ni démocrates, mais tout le monde est américain. Et il a dit qu'aujourd'hui, le jour de son investiture, c'est le signal que le peuple a repris le pouvoir à Washington. Intéressant, Anastasie, le 44e président des États-Unis, Barack Obama, qui était derrière lui, il n'a pas applaudi une seule fois pendant le discours, une seule fois seulement, lorsque le président Trump a parlé des forces de l'ordre. On sait qu'évidemment ici aux États-Unis, on soutient beaucoup l'armée et la police. C'est le seul moment où Barack Obama a applaudi lors de ce discours. Il a en tout cas, Donald Trump a remis l'accent sur l'Amérique en premier. Il a notamment expliqué que les États-Unis avaient permis à d'autres pays de s'enrichir. Eh bien, il a dit qu'il est temps pour la classe moyenne américaine de s'enrichir d'abord. Il a beaucoup parlé des familles et il a également parlé de l'insécurité. Selon lui, on a laissé l'Amérique peut-être non sécurisée et encore une fois avec lui, tout va changer. Le ciel gris a été clément avec le 45e président. C'était évidemment le gros point d'interrogation sur cette cérémonie. Un mall, le National Mall, comme on le dit ici aux États-Unis, qui était plus clairsemé que pour les investitures de Barack Obama. Est-ce le temps? Est-ce l'idéologie? En tout cas, l'histoire le dira. C'est vrai qu'il y avait du monde, peut-être un peu moins que lors des investitures Obama. Mais en tout cas, la ferveur était là. Et c'est vrai qu'Anastasie, il faut le rappeler, c'est le temps fort de la démocratie américaine. Tout le monde vient derrière le président américain quelle que soit sa couleur politique. Et c'est vrai que c'est un beau symbole, évidemment, pour les Américains et pour le monde.
Nicolas, ces Américains que le président Trump a mis en avant et a promis de mettre en avant, vous étiez au milieu d'eux. Pendant la cérémonie, quelles étaient les réactions autour de vous ? Comment les Américains le vivaient ? Parce qu'ils viennent d'un peu partout, en fait, du pays.
Tout à fait. Alors, là où je me trouve, au Capitole, il y a surtout plutôt des partisans de Donald Trump, oui. Puisqu'il faut avoir des tickets, donc il faut un petit peu jouer les coudes. Oui. Alors, eux ont vraiment... Généralement, les investitures sont un peu le point d'orgue pour tous les partisans qui ont soutenu un candidat. Et là, ils étaient là. Il faut quand même noter que certaines personnes ont perturbé cette investiture en criant des slogans hostiles au nouveau président. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ici c'était surtout la ferveur quand on voyait à l'écran Donald Trump et notamment toute sa famille qui était également présente sur place. On va quand même, petit clin d'œil de l'histoire, Hillary Clinton était présente, oui. On sait que c'est la candidate malheureuse, qu'elle a été battue le 8 novembre dernier. Hillary Clinton était présente en tant qu'ex-première dame des États-Unis puisqu'elle est la femme évidemment de Bill Clinton, et elle a eu également une bonne acclamation lorsqu'elle est arrivée, et en tout cas, voilà, à noter la présence de Jimmy Carter, l'ancien président. George W. Bush était là, Bill Clinton, évidemment George Bush père n'était pas là puisqu'on le sait, il est actuellement hospitalisé avec sa femme Barbara.
Voilà, merci beaucoup Nicolas Pineau, vous étiez en direct du Capitole, on aura bien compris, ferveur des supporters de Donald Trump. Des centaines de milliers d'Américains venus de tout le pays acclamaient Donald Trump, c'est ce que Nicolas Pineau nous disait, sous l'œil vigilant de plusieurs milliers d'agents de sécurité. Bagassi Koura a suivi ce discours, quelles en ont été les grandes lignes ?
Dans un discours assez court, à peine 10 minutes, le nouveau président américain Donald Trump s'est adressé à ses concitoyens sur un ton assez conciliant. Un discours de réconciliation, mais aussi des promesses pour le 45e président des États-Unis. Ce 20 janvier est un jour spécial.
Today, we are not merely transferring power.
Aujourd'hui, nous ne faisons pas juste un simple transfert de pouvoir d'un parti à un autre ou d'une administration à une autre. Aujourd'hui, nous transférons le pouvoir à vous, le peuple. Donald Trump a poursuivi, soulignant que nous, citoyens américains, avons joint nos efforts pour reconstruire notre pays. Tout va changer ici et maintenant, a dit Donald Trump. Ce moment est votre moment, il vous appartient. Il a dit notamment que pour lui, le moment était venu de donner à l'Amérique la place qu'elle mérite.
Together, we will make America strong again.
Ensemble, nous allons rendre l'Amérique de nouveau forte, de nouveau riche, de nouveau fière et en sécurité. Oui, nous allons rendre l'Amérique meilleure encore.
And yes, together, we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America.
Trump regrette que l'Amérique finance les armées d'autres pays, soulignant que tout sera mis en œuvre pour vaincre le terrorisme. Nous allons définir ensemble une nouvelle direction du pays. Vous êtes venus par milliers pour être témoins d'un mouvement historique. Au centre de ce mouvement est la croyance qu'une nation doit être au service de ses concitoyens, a dit le président américain. Il va protéger les emplois de ses concitoyens. Nous allons construire de nouvelles routes, a dit Donald Trump. Il a souligné qu'il va sortir ses concitoyens de la pauvreté.
Écoutez, Le Monde aujourd'hui, consacré aujourd'hui, eh bien, à l'inauguration, enfin on appelle ça Inauguration Day ici, c'est à l'investiture du président Donald Trump. Et juste avant sa prestation de serment, eh bien, c'est son vice-président Michael Richard Pence qui a prêté serment à 11h53 exactement. Qui est Michael Pence ? Son portrait tout de suite par Jacques Aristide.
Next vice-president of the United States. Governor Mike Pence.
Mike Pence est un homme du Midwest avec de fortes valeurs conservatrices.
Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un homme simple. Je suis un chrétien, conservateur et républicain, dans cet ordre.
Des valeurs que Pence tient de l'État d'où il vient, l'analyste Randy DeClean.
Dans le Midwest, les gens bien font le bien à l'abri des regards. Ce sont des valeurs importantes dans cette partie du pays et dans un État comme l'Indiana.
Qu'en pense Paul Ryan, président de la Chambre des représentants des États-Unis ?
Son message a toujours été très positif, optimiste, inspirant.
C'est un homme de foi. Un homme de conviction, en qui vous pouvez avoir confiance.
Il est issu du cœur du mouvement conservateur. Il vient du cœur de l'Amérique.
Après deux tentatives infructueuses, Mike Pence est finalement élu représentant de l'Indiana au Capitole en 2000. À Washington, il acquiert une certaine expérience, mais pour lui, le gouvernement n'est pas l'unique réponse aux problèmes des Américains. Écoutons Mike Pence.
We're tired of being told.
Nous sommes fatigués de nous entendre dire qu'une petite élite là-bas, loin au Capitole, est capable d'organiser nos vies mieux que nous-mêmes.
Pence retourne dans l'Indiana pour y être gouverneur, suscitant la controverse par ses positions sur l'avortement et des frictions entre les droits des homosexuels et la liberté de religion. Gary Nordlinger de George Washington University.
Cette loi n'autorise aucune entreprise à refuser de servir qui que ce soit.
Mais pour Randy DeClean, ce sont les qualités de Mike Pence qui joue le plus en sa faveur, quelqu'un qui est un fin stratège et qui a tout pour être un leader audacieux et solide d'après l'analyste. Des qualités qui lui seront utiles en tant qu'adjoint de Donald Trump.
Jacques Aristide, pour bien comprendre la place et le rôle du vice-président, René Lake est avec nous au téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un observateur et analyste de la politique américaine depuis plusieurs décennies et puis directeur de publication des journaux en ligne CNEWeb Plus et Abidjan Plus. Alors avant d'aborder Mike Pence, René, qu'avez-vous pensé du discours du président Trump ?
Écoutez, j'ai trouvé le discours du président Trump relativement consistant hein, par rapport au discours que l'on a entendu pendant la campagne. C'est vraiment le populiste Trump, c'était quasiment un président en campagne que j'ai entendu. Son discours était particulièrement radical. Je ne me souviens pas avoir entendu un discours d'investiture qui soit à ce point radical. Je l'ai trouvé même fortement polémique, hein, au sens où il avait une description relativement, par défaut, devrais-je dire, relativement sombre de l'Amérique, puisqu'il disait voilà ce que je veux changer en disant qu'en fait tout ce qu'il y avait avant n'était pas bon, en parlant de la violence dans les villes, en parlant des problèmes de chômage, etc. Et bien entendu, il a utilisé son slogan de campagne sous différentes formes. Je vais refaire de l'Amérique une Amérique forte again, à nouveau. Je vais ramener le rêve américain à nouveau. Donc, insinuant que le rêve américain était quelque part parti et qu'il va être le sauveur. Donc, je l'ai trouvé assez conflictuel, je dois dire. Et donc, c'était, un discours que ses militants, les gens qui ont voté pour lui, ont dû apprécier parce qu'il était cohérent par rapport au Donald Trump que l'on a connu pendant 2 ans de campagne.
Les acclamations après son discours semblent vous donner raison, René. Alors, revenons au vice-président et à son rôle. D'abord, aux États-Unis, quel est le rôle du vice-président ?
Écoutez, le premier rôle du vice-président, c'est de pouvoir devenir président en cas d'incapacité, soit par décès, soit par impeachment, ou soit par donc destitution en français, ou soit par empêchement, ne serait-ce que temporaire, ou démission du président. Donc le vice-président doit avoir en quelque part la capacité de gouverner l'Amérique à un moment ou à un autre, parce qu'à tout moment, cela peut se produire. Bon, il est aussi quand même le président du Sénat, donc c'est important. Le Sénat, je vous rappelle qu'il y a 100 sénateurs, donc on peut se retrouver dans une situation d'égalité parfaite, 50-50, et la voix du vice-président devient à ce moment-là prépondérante. Donc, et il n'a pas de rôle exécutif reconnu par la Constitution, mais très souvent, le président peut lui confier des tâches importantes. Alors maintenant, il est bien entendu, étant donné qu'il est proche du président de la République, il est très influent. Alors vous en avez, c'est l'influence de proximité, comme on dirait. Donc il y en a qui sont influents d'un point de vue de la stratégie. Ça a été le cas, je crois, de Dick Cheney avec George Bush. Par rapport maintenant aux orientations, ça a été le cas de Al Gore avec Bill Clinton. Vous vous souvenez, Al Gore a joué un rôle très important dans le développement de Internet. Ou ça peut être le confident, comme Joe Biden, qui est devenu très très proche de Barack Obama et qui était le grand confident de Barack Obama, qui lui a au demeurant confié des tâches importantes, notamment la lutte contre le cancer.
Donc, ce qui me mène tout naturellement, René, à la question suivante, qui est celle de la personnalité, parce que tout dépend aussi de la personnalité du vice-président. Et alors, quel type de vice-président sera Mike Pence ?
Alors, il semblerait que le rôle que voudrait lui faire jouer Donald Trump, c'est un peu le rôle d'un COO, Chief Operating Officer. Donc, au fond, celui qui va gérer le pays au quotidien, parce que Donald Trump, tout le monde sait qu'il n'est pas trop dans l'exécution des détails, la mise en œuvre, c'est pas trop son truc. Il veut rester un peu un leader, un peu dans l'inspiration, un peu propulser des idées, pousser de grandes idées, de grands programmes, mais il n'est pas trop impliqué, ne semble pas vouloir s'impliquer dans les mises en œuvre, dans les détails des mises en œuvre. Puisque, comme vous savez, même pour les rapports des renseignements généraux, il dit que l'essentiel, c'est que Mike Pence les reçoit tous les jours, que lui, il n'a pas besoin de ce type de détails parce que c'est souvent répétitif, dit-il. Mm-hmm. Donc je crois qu'au quotidien, Mike Pence va être un peu le chief operating officer de l'exécutif américain.
Merci beaucoup, René Lake. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de CNEWeb Plus et Abidjan Plus, deux journaux en ligne, très suivis également par nos auditeurs. Merci pour cette analyse.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir. Rejoignons maintenant, si vous le voulez bien, Eric Manirakiza, qui est sur le Mall, cette esplanade au cœur de Washington. Autant dire qu'elle est très fréquentée aujourd'hui, n'est-ce pas, Eric?
Oui, Anastasie, je me suis déjà déplacé. Je me trouve exactement sur la jonction entre l'avenue de l'Indépendance, Independence Avenue, et la 7e rue, 7th Street, parce que les gens ils sont en train de rentrer. Il y a une petite pluie qui s'abat depuis quelques temps sur les lieux et les gens essaient de se mettre à l'abri. Vous entendez une belle ambiance ici, des gens qui sont contents d'avoir... était témoin de l'investiture de leur 45e président des États-Unis, Donald Trump. Il porte des t-shirts, des casquettes et des badges à l'effigie du nouveau président et de son vice-président. On a vu aussi des supporters de la candidate malheureuse du Parti démocrate, Hillary Clinton, mais deux jeunes filles qui étaient venues de Charlotte et en Caroline du Sud et qui venaient juste en voyage d'études pour voir comment se fait la passation du pouvoir, disons une passation pacifique qui caractérise cette grande nation américaine. Et Anna, je me suis entretenue avec une femme qui vient de la Virginie, oui. Elle est noire et qui soutient Donald Trump pour des convictions religieuse Anna, une femme qui est contre l'avortement et qui est contre le mariage pour tous, c'est-à-dire entre les personnes de même sexe. J'ai vu aussi un jeune homme d'origine asiatique qui, lui, a voté Trump pour des raisons économiques, mais qui reste sceptique sur sa politique d'immigration et qui, lui, aujourd'hui... selon ce qu'il a dit, le discours du nouveau président ne l'a pas du tout impressionné. Il a trouvé généraliste revenir sur ses slogans de campagne. Et un homme qui est un peu âgé, Excel, qui vit en Virginie, qui soutenait Hillary Clinton, mais qui lui est venu pour soutenir et défendre la démocratie américaine et écouter encore une fois Trump pour le juger le jour J si il va réellement mettre en application ses promesses de campagne.
Bon, alors on comprend bien. On comprend bien à vous écouter, Eric, que finalement ce sont des Américains qui viennent de différentes obédiences et qui ont des croyances et des cartes politiques différentes. Comment est-ce que ces gens interagissent entre eux? Est-ce que vous sentez des tensions ou est-ce que c'est plutôt bon enfant?
Non, c'était calme, hein, pas vraiment d'incident. Les gens se respectent entre elles, ils discutent entre eux. Mmh. Voilà.
Non, c'est un exercice démocratique à nouveau.
Oui, leurs slogans, par exemple, des partisans de Clinton portaient des slogans The Indivisible, pour dire que nous sommes indivisibles. Et voilà, tout le monde qui aussi, la plupart qui portaient. Un badge spécial. I was there pour dire j'étais là. Oui, j'ai vu l'investiture du nouveau président.
Merci beaucoup, Eric Manirakiza.
Je vous en prie.
Allez, on change d'angle, on change de cap avec John Lydon, qui lui aussi a suivi l'événement et n'en a pas raté une miette, n'est-ce pas, John?
Oui, merci Anastasie et merci à tous nos auditeurs. Il faut dire que depuis ce matin, on suit cet événement et c'est un grand moment. que l'Amérique connaît aujourd'hui. On a une tradition là qui s'est perpétuée depuis des décennies, puisqu'on assistait aujourd'hui à la 58e inauguration.
Qu'est-ce que vous avez vu? Quels sont les moments marquants, en tout cas qui vous ont marqué, John?
Alors moi, ce qui m'a marqué en premier, c'est cette dernière réception, j'allais dire, de Barack Obama et de Michelle, qui recevaient donc à la Maison Blanche Donald Trump et son épouse, et ils ont pris du thé ensemble. Et ils sont ressortis. Alors, ils sont ressortis comment? On a d'abord vu Michelle et Melania Trump sortir et entrer dans la même voiture. On a vu le vice-président Mike Pence et puis Joe Biden sortir ensemble également. Et puis, cette image qu'on n'imaginait pas il y a 2 ans ou quelques mois, Donald Trump et Barack Obama sortant de la Maison Blanche et entrant dans la même voiture et se dirigeant au Congrès. Et où il y avait donc cette prestation de serment de Donald Trump. Et à la fin de la prestation de serment, on a encore vu Donald Trump et Barack Obama ensemble. Évidemment, c'est pour préserver cette image de l'Amérique démocrate, une Amérique où les passations de pouvoir se font de manière sans issue. Et c'est une image pour moi qui est restée frappante. Et puis maintenant, ce discours de Donald Trump en tant que président maintenant, celui-là même que beaucoup n'imaginaient pas à cette haute responsabilité pour la plus grande puissance du monde. Vous vous souvenez, Anastasie, que lorsqu'il annonçait sa candidature, beaucoup n'avaient pas cru qu'il serait là. Et on l'a vu durant toute la campagne, un homme qui n'a pas bénéficié de la sympathie, comme c'est souvent le cas des médias américains, un homme qui n'a pas bénéficié de la sympathie même d'une partie du peuple américain. Je ne veux pas parler des démocrates qui ne l'aiment pas forcément. Et donc, le voir parler là en tant que président des États-Unis, c'est un peu une image forte. Maintenant, on va se demander ce qu'il fera en tant que président des États-Unis. Et je pense que il a 4 ans pour ça, 4 ans pour démontrer que beaucoup de gens peut-être s'étaient trompés sur sa personne.
Et nous serons là pour en rendre compte à nos auditeurs. Merci, John Lyndon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, merci. Nous vivons ensemble l'investiture du 45e président des États-Unis, Donald J. Trump. C'est un événement pour les Américains, mais pas seulement. Notre équipe a recueilli quelques réactions avant et après l'investiture, écoutons-les.
Je m'appelle Alpha Isiaga Diallo, je suis Guinéen résident à New York. Je pense que ici, les Américains ont parlé, il faut qu'on respecte. Moi, je suis un républicain, mais écoutez, tout ira dans le bien parce qu'il ne peut pas avoir les mains libres. Je crois que Trump est confronté d'abord par son propre camp, alors que les autres sont plus vigilants que les républicains. Je pense qu'ici, il faut que nous soyons beaucoup prudents avec lui parce que c'est un gouvernement bourgeois qu'il est en train de mettre. Vous savez que les bourgeois, ils s'en foutent des autres. En tout cas, il y a beaucoup d'inquiétudes.
Allô, bonjour, c'est Diassibo Chambiano depuis Niamey. Ouais, j'appelle juste pour dire que bon, voilà, tout ce que nous on attend de Trump, que les Africains attendent de Trump, c'est que toutes ces guerres qui sont en Afrique subsaharienne s'arrêtent. Et on espère avec lui qu'on va avoir plus de paix en Afrique. Parce que moi, j'en connais pas mal de nids qui sentent le souffle. Donc, on espère bien qu'avec son arrivée au pouvoir, même si je ne crois pas aux hommes politiques, j'espère que l'Afrique subsaharienne aura la paix. Voilà. Et en l'adage africain, on dit que quand il y a le tonnerre, chacun protège sa tête. Donc, moi, je ne peux parler que de l'Afrique. C'était Diassibo Chambiano depuis Niamey.
On aura bien retenu le proverbe avec le tonnerre. Et sur les réseaux sociaux aussi, vous vous êtes exprimé. Dilidico, bonsoir.
Bonsoir Anna.
Alors qu'est-ce qui frémit dans le monde numérique ?
Alors dans le monde numérique, le hashtag Inauguration Day et le hashtag President Trump sont ceux qui traînent le plus aujourd'hui. Mais il y a aussi hashtag Thank You Obamas. Beaucoup de gens voient cette journée comme l'opportunité de remercier Barack et Michelle. Ils sont déjà très nostalgiques. Je rappelle que vous pouvez suivre la couverture de cette journée sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, VOA Afrique. Et donc, tapez juste hashtag Inauguration 2017.
Voilà. Alors, que disent les auditeurs et les téléspectateurs sur les réseaux sociaux ?
Alors, sur Facebook, vous avez été 46 000 à nous suivre. Et donc, par rapport à vos commentaires, il y a Ronaldo Cardip qui a écrit « Obama est rentré dans l'histoire des USA ». Et Herman Dimitrik Balou qui nous a dit « Parlant de Trump, il va travailler pour les Américains par rapport à l'autre qui travaillait pour les Européens. Bonne arrivée, boss. » Et Mohamed Kamissi n'est pas d'accord avec Herman Dimitri et lui, il dit bravo à Obama. Et un autre commentaire drôle, cette fois-ci, de Alizada qui nous dit « C'est Obama dans l'hélico ?»
Ok. Et voilà. Du côté de Twitter ?
Et du côté de Twitter, ce matin, Trump a tweeté pour dire « Tout commence aujourd'hui, le mouvement continue et le travail commence. Mm-hmm. » Et voilà. Et suite à sa prestation de serment, son équipe a beaucoup tweeté, beaucoup d'extraits de son discours d'investiture, parmi lequel nous allons mettre à l'ordre du jour l'emploi, nos frontières, la richesse, nous allons mettre à l'ordre du jour nos rêves.
Merci Dili Diko.
Merci Anna.
Cette édition spéciale sur l'investiture du 45e président des États-Unis touche à sa fin. Avant de nous quitter, voici un résumé des principales nouvelles du monde. Crise en Gambie, c'est le statu quo. L'ultimatum de la CDAO a pris fin, mais rien ne bouge et les troupes sont toujours en attente. Reportage de notre correspondant Seydina Abagaye.
Le président de la Guinée Alpha Condé et son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz sont arrivés en Gambie ce vendredi dans l'après-midi. Ils veulent proposer au président sortant Yahya Jammé un exil dans le pays de son choix. Les chefs d'État de la Guinée et de la Mauritanie mènent une ultime médiation pour convaincre Jammé de quitter le pouvoir de manière pacifique. Ce jeudi, les troupes de la CDAO sont entrées en Gambie pour restaurer la démocratie. Leur marche vers Banjul a été suspendu suite à l'ultimatum lancé à Jammé pour permettre une dernière médiation. Cet ultimatum a pris fin ce vendredi à midi temps universel alors que les présidents de la Guinée et de la Mauritanie étaient toujours à Banjul pour trouver une solution pacifique. Le colonel Abdoul Ndiaye, porte-parole de l'armée sénégalaise, estime que c'est la CDAO qui déciderait de la reprise ou non des opérations militaires. Seydina Abagaye à Dakar pour la Voix de l'Amérique.
Au Nigeria, le bilan de l'accident causé par l'armée s'alourdit. Le Médecin sans frontières fait état d'un dernier bilan de 90 morts qui pourrait s'alourdir à 170. Il s'agit majoritairement de femmes et d'enfants. Au Mozambique, les autorités ont annoncé que les intempéries ont fait 40 morts et 76 000 sinistrés depuis octobre et le début de la saison des pluies, alors que le pays se prépare à davantage de fortes précipitations dans les prochaines semaines. Le gouvernement a placé cette semaine l'ensemble du territoire en alerte orange. Et puis, l'actualité, c'est aussi à l'international. Depuis Davos, en marge du Forum économique, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, qui a proposé aujourd'hui à la nouvelle administration Trump de discuter de ses inquiétudes en matière de libre-échange. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui affirmé aujourd'hui s'attendre à ce que l'alliance avec les États-Unis soit plus forte que jamais avec l'investiture du président Donald Trump. Il a adressé au président Trump ses amicales félicitations via Twitter. Voilà pour l'actualité internationale. Donc, je rappelle que le Mozambique se prépare à de nouvelles intempéries. Et Merci pour votre attention. C'est ainsi que se termine ce journal. Il a été réalisé par Michel Joseph avec l'aide technique de Martin Curses. Restez sur VOA Afrique. À venir, l'Amérique et vous, présenté par John Lyndon. Le thème: Donald Trump est au pouvoir. Qu'est-ce qui va changer ?